Mieux comprendre l'agriculture d'hier et d'aujourd'hui, tout de suite, c'est votre chronique Cultivons-nous avec Paul.
Continuons cette semaine avec nos physiocrates. La semaine dernière, je vous racontais le contexte historique du colbertisme en France. Mais c'est un peu loin, donc reprenons. Nous sommes à la fin du règne de Louis XIV et au début de celui de Louis XV, au début du XVIIIe siècle. Je vous disais que Colbert avait contribué à faire de la France la première puissance mondiale grâce à ce que l'on appellera le colbertisme, qui consiste à aller chercher des richesses partout dans le monde, puis de les transformer dans de grandes fabriques. Or, cette forme d'économie crée un pays riche, mais ça ne change pas grand-chose pour sa population. Les gens ont faim, les céréales sont la base du régime de nos ancêtres, et les moments de disette sont fréquents dus à une agriculture emplie de savoir. Et c'est là que François Quesnay arrive. Médecin à la cour du roi, il possède des théories économiques assez nouvelles, avec ses acolytes Mirabeau, un natif de Pertuis, et Dupont de Nemours, dont le descendant va créer la société Dupont aux États-Unis, qui est toujours parmi les trois plus grosses entreprises de chimie au monde. Ils vont penser à un nouveau système. La richesse ne vient que de la nature, donc de l'agriculture. Il faut alors un système avec des propriétaires terriens qui touchent une rente par le fermage. Rappelons-nous que nous sommes dans l'Ancien Régime et que les terres appartiennent aux rois et aux nobles principalement. Le paysan qui va exploiter la terre, le fermier donc, sera la clé de voûte de ce système. Les physiocrates vont d'ailleurs le nommer entrepreneur. C'est la première fois que l'on va utiliser ce terme dans l'économie. Auparavant, un entrepreneur était un mercenaire. Désormais, il conserve une aura guerrière, mais il va devenir celui qui va exploiter la terre pour en tirer la richesse. Il est entrepreneur de culture, c'est le terme qu'ils emploient, car c'est lui qui va devoir gérer les risques que l'on peut rencontrer dans la production agricole, mais aussi en tirer les fruits. Arrivent alors deux idées qui vont changer l'économie. La première est que la propriété doit être complète, car la richesse venant du sol, il faut être propriétaire de sa terre pour la faire fructifier. Le propriétaire touche une rente, et pour les physiocrates, c'est là que doit se situer l'impôt sur le foncier, et non sur le travail, car il est synonyme de risque et de labeur, donc pas d'impôt dessus. La deuxième notion qu'ils vont développer, c'est l'idée de croissance. Avant les physiocrates, nous étions dans une économie à développer. On vend un stock qui, par définition, se termine. Je gagne, tu perds. Alors que la terre donne toujours et mieux, on la traite plus pour en avoir. Un viticulteur peut vendre du raisin, mais aussi faire du vin, du vinaigre, du verjus, de l'huile de pépins de raisin, du vieux marc, faire pépiniériste ou planter des blés dans l'interran. Tout ça en même temps sur une même parcelle, et tout vient de la nature. Ils seront les premiers à créer un système de tableau économique qui sera le point de départ de l'économie comme matière à penser. Ce tableau établit d'où vient la richesse et comment elle est répartie. Adam Smith reprendra ses travaux pour poser les pierres du libéralisme et du système économique que nous connaissons aujourd'hui. Ce système a été vite oublié avec l'ère industrielle qui débute et le charbon en Angleterre quelques années après. Il n'était pas parfait, mais n'est-ce pas le bon moment de repenser l'agriculture et donc le respect de la nature comme pierre angulaire de l'économie ?